Merci.
Bonjour à tous ceux que je n'ai pas salués, que je n'ai pas encore vus. Bonjour. Ce matin, je voudrais vous parler d'un sujet moi, qui m'a beaucoup... Enfin, de deux personnes dans la Bible dont le comportement m'a beaucoup parlé, en particulier ces derniers temps. Ces deux personnages, on entend rarement prêcher à leur sujet, surtout le premier. Ce sont des gens qui ont servi Jésus quand il était mort. Il y a des gens qui ont servi Jésus, des disciples qui ont suivi Jésus avant qu'il ne soit sur la croix, bien entendu. S'ils l'ont suivi, ils ont vu des miracles, ils ont vu de belles et puis grandes choses. Il y a eu les 70, après il y a eu les 12, etc. Et c'était, je me dis que ça devait être quelque chose d'extrêmement exaltant. Pour le moins, de vivre à côté de Jésus, de vivre avec lui, de voir tous les miracles, toutes les bonnes choses qu'il faisait. Puis à ceux qui l'ont servi après la résurrection. Et cela, nous en faisons partie. Mais il y a un homme, deux hommes, voire, qui ont servi Jésus alors que Jésus était mort. Comme extrêmement particulier. Qui sont ces deux hommes? Josiane, tu n'as pas le droit de répondre. On est content d'avoir Josiane parmi nous ce matin parce qu'elle a des difficultés de santé qui font qu'elle ne peut pas venir très souvent. Donc, bienvenue à Josiane, mais elle a déjà entendu ce que je vais partager, donc c'est pour ça que... Voilà. Donc, qui sont ces deux personnages? Hein? Réponds pas trop vite. Hein, dis-moi.
Non, je ne me rappelle plus
d'un Joseph d'Arimathée,
non?
Oui, Joseph d'Arimathée, oui, c'est ça. Qui avait un collègue, et on va voir quel collègue il avait. Effectivement, l'homme dont je veux parler ce matin, c'est Joseph d'Arimathée. Alors on prêche rarement sur cet homme, et c'est quelqu'un qui a servi Jésus alors que Jésus était mort. Et ça, c'est vraiment très, très particulier, on va voir comment. L'histoire de Joseph est décrite dans chacun des quatre évangiles, en quelques versets. Il n'y a pas grand-chose, quelques versets, mais je vous propose que rapidement, mais avec attention, on lise l'histoire de ce Joseph d'Arimathée dans les quatre évangiles. Premier évangile. Je ne les ai pas pris dans l'ordre, je ne crois pas. Donc Matthieu 27, 57. Le soir étant venu, donc ça c'est après que Jésus soit mort sur la croix, arriva un homme d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Donc cet homme, il n'était pas connu, mais c'était aussi un des disciples de Jésus. C'était un homme qui était, on va le découvrir petit à petit à travers les quatre évangiles. Une chose importante, c'est que c'est un homme qui était riche, disciple de Jésus, mais riche. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Joseph prit le corps, l'enveloppa d'un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Donc, ça veut dire que c'était son sépulcre. Hein. Ce n'était pas le sépulcre de quelqu'un d'autre, c'est celui dans lequel il devait rentrer lui-même lorsqu'il serait décédé. Et il le donne, en quelque sorte, ici à Jésus. Puis, il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre et il s'en alla. Donc, on peut supposer qu'il n'était pas tout seul pour rouler la pierre, parce que c'était une grosse pierre. On va voir qu'effectivement, tout à l'heure, il a été aidé. Donc, un homme riche, disciple de Jésus, qui vient réclamer à Pilate le corps de Jésus, et puis qui lui donne son sépulcre. Le suivant, si tu veux bien. Ah, pardon. C'est à moi de... Ah, pardon. D'accord. Donc, Marc 15, comme vous le voyez, a un membre éminent du conseil. Alors, le conseil, c'était le Sanhédrin, hein, bien entendu, ici. Sanhédrin, c'était le conseil juridique des Juifs à Jérusalem, c'est eux qui tranchaient de qui est coupable, qui n'est pas coupable, et puis de la sanction qu'on allait donner à la personne. Donc un membre éminent de ce conseil, donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était reconnu, qui avait une autorité dans le Sanhédrin, dans Jérusalem, tout le monde connaissait Joseph d'Arimathée. C'était un notable, très riche, et en plus c'était quelqu'un donc, qui faisait partie du Sanhédrin et dont on écoutait vraiment la parole. Il attendait aussi le règne de Dieu. Tout à l'heure, on a vu que c'était un disciple de Jésus. Il avait une bonne attitude. Il attendait le règne de Dieu. C'était un homme qui avait cette qualité. Il eut le courage. En plus, il était courageux, parce qu'il fallait quand même oser y aller. Hein. C'était un membre du Sanhédrin, le Sanhédrin qui avait condamné Jésus, et il retourne voir Pilate, et Pilate le connaît. Pilate connaissait tous les gens riches du Sanhédrin de la ville, c'est certain. Et il va voir Pilate et lui demande le corps de Jésus. Pilate aurait très bien pu le renvoyer à ses collègues du Sanhédrin qui l'auraient fait bastonner, c'est certain. Pilate aurait pu très bien aussi le maltraiter avec les soldats qu'il avait à sa disposition, mais non, on ne sait pas très bien pourquoi le cœur de Pilate est touché là, et ben, il va donner à Joseph d'Arimathée, il va lui donner le corps de Jésus. Pilate s'étonna que Jésus soit déjà mort, parce que vous le savez, les crucifiés, normalement, ils vivaient plus longtemps que ce que Jésus n'a vécu sur la croix, au niveau de la durée, mais ça c'est un autre propos. Il fit venir le centurion, et lui demanda s'il était mort depuis longtemps, et renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le cadavre. Pilate, il voulait être sûr que Jésus était bien mort. Hein. Et il permit à Joseph de prendre le cadavre. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Je ne sais pas si vous avez imaginé la situation. Moi, j'ai essayé de me mettre à la place de cet homme. Il est en face d'un cadavre. Alors déjà, en soi, franchement, bon, se trouver en face d'un cadavre, le porter, le prendre, l'avoir contre soi, c'est quelque chose qui est difficile. Mais en plus, il a devant lui le cadavre de Jésus, d'un Jésus qui est mort. Et là, il ne va pas prier Jésus. Je suppose que Jésus est mort. Et cet homme va être extrêmement courageux parce qu'il va le déposer dans une tombe, la sienne, on l'a vu tout à l'heure, qui était creusée dans le rocher et qui roule une pierre à l'entrée du tombeau. Donc on voit que les choses se répètent un petit peu. Mais on voit ici qu'en plus, c'était un homme qui était extrêmement... C'était un membre du Sanhédrin et qui était extrêmement courageux. Et il va être en contact direct avec Jésus. C'est quand même un petit peu bizarre. Moi, j'aurais été à sa place, à la place de Joseph d'Arimathée, j'aurais dit, écoutez, Jésus, il est mort. Quelle importance d'aller en plus lui donner une sépulture? Il est mort. L'histoire, à la place de Joseph d'Arimathée, moi, je me serais dit, l'histoire est terminée, finalement. L'histoire est finie. L'histoire est terminée. C'est ce qu'ont fait les autres disciples. Il y en a même un qui a trahi Jésus devant le Sanhédrin. Enfin, non, c'était dans le Sanhédrin, oui, je crois. Il l'a trahi, c'était Pierre. Pierre a trahi. Et Joseph d'Arimathée, il va jusqu'au bout de la démarche, lui. Il a vu Jésus crucifié, mais quand Jésus est mort, il va plus loin. Il va continuer de le servir. Et on va voir, troisième passage, de quelle façon il va le servir. Hop. On est revenu dans Matthieu. Marc, on vient de le faire. Et on passe à Luc maintenant. Donc il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. C'était un homme qui était droit, qui attendait le royaume de Dieu, qui était courageux et qui était en plus bon et juste. Il n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le Sanhédrin, pour que quelqu'un soit condamné, il fallait que le vote donne les deux tiers, la majorité soit aux deux tiers. Et apparemment, il semblerait que Joseph d'Arimathée, c'est ce qui est dit ici, n'ait pas voté pour que Jésus soit puni. La plupart des autres membres du Sanhédrin n'ont pas voté pour, mais lui, ont voté pour que Jésus soit reconnu coupable et condamné, mais lui, il a voté contre. Il ne s'est pas rendu coupable comme les autres membres du Sanhédrin. C'était un homme qui était bon, qui était juste et qui déjà là était courageux. Vraiment un homme de très grande qualité. Dans chaque évangile, il n'y a que quelques versets le concernant, mais on voit que c'est quelqu'un qui sort vraiment du lot. C'est étonnant. Il y a des gens dont il est parlé avant, Pierre, Paul, Jean, Jacques et compagnie, on en parle avant la mort de Jésus sur la croix. On en parle aussi après. Mais cet homme-là, on va en parler quelques petits versets dans chaque évangile. Il ne va pas faire grand-chose finalement cet homme, au niveau de la durée j'entends. Hein. Au niveau du courage, il va lui falloir beaucoup de courage. Mais au niveau de la durée, ce qu'il fait, ça va durer quelques heures. Il est un petit peu pressé parce que il y a le sabbat qui va arriver derrière, là, il faut qu'il fasse les choses assez rapidement, parce qu'après, il ne pourra plus le faire. Hein. Il n'avait pas le droit de travailler. Il attendait le royaume de Dieu, il se rend vers Pilate, il demande le corps de Jésus, il le descend de la croix, lui-même, l'enveloppe dans le linceul, lui-même, le dépose dans le sépulcre, où personne n'avait encore été mis, c'était celui qui était prévu pour Joseph d'Arimathée. Et puis, le quatrième, ici, Jean, c'est un petit peu plus long que les trois autres évangélistes. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs. Alors c'est notable. Cet homme, il va avoir un acte de courage énorme à un moment donné, alors qu'avant, c'était quelqu'un qui était prudent et puis plutôt réservé et puis peureux. Hein. Il était disciple de Jésus, mais il ne voulait pas que ça se sache, il ne voulait pas que ça se voit. Il était disciple, mais en secret. Comme quoi, des fois, il ne faut pas trop juger les gens, on pourrait dire, mais il était disciple en secret. Non, un disciple de Jésus, c'est quelqu'un qui montre le drapeau tout de suite. Ben non, Joseph, il est reconnu qu'il était disciple de Jésus, mais en secret. Et tout à coup, il va avoir un élan de courage, on ne sait pas très bien pourquoi ni comment, qui va lui faire, il va aller au bout des choses en faisant un acte de courage que Pierre, Paul, Jacques n'auront pas eu. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Et c'est là qu'on voit celui qui va l'aider, c'est Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apporta donc la myrrhe et puis l'aloès, ils prirent le corps de Jésus, on voit qu'ils étaient, en réalité, dans Jean, on voit qu'ils étaient les deux. Nicodème, c'était un autre membre du Sanhédrin. Ce n'était pas un notable, ce n'était pas quelqu'un de riche, on ne sait pas très bien. Nicodème, c'était un théologien, c'était un docteur de la loi. Hein, vous connaissez tous l'histoire de Nicodème qui vient voir Jésus, puis qui lui dit, ils ont ce discours autour de naître de nouveau. Hein, vous connaissez l'histoire. Mais deux membres du Sanhédrin, un qui était un homme très riche et très reconnu, un autre qui était un pharisien, docteur de la loi, Nicodème, c'est ces deux-là, ces deux personnages, des personnages, des notables de la ville importants, qui vont avoir cette humilité de venir recueillir un Jésus qui n'est pas le Jésus glorieux que les disciples ont connu au temps où Jésus vivait, mais qui est ce Jésus décédé, ce Jésus mort. Ils vont le servir. Donc ils l'enveloppent, etc. Et puis après, voilà. Après, je ne veux pas lire la suite. Mais vous voyez donc que chez ces deux hommes, il y a vraiment des qualités extrêmement, extrêmement importantes. Ce sont deux hommes de très, très grande qualité qui, à un moment donné, vont avoir le bon courage au bon moment de faire simplement ce qui est juste. Pas d'accompagner Jésus sur les routes de Galilée et puis de faire des miracles et de chasser les démons et de guérir les malades, ce qui est très bien. Mais simplement de recueillir le corps de Jésus mort pour pouvoir l'enterrer décemment. Et ça, je trouve que c'est beau parce qu'il faut du courage, il faut non seulement du courage, mais il faut aussi beaucoup d'humilité. Suivre Jésus sur les routes de Galilée pour faire des miracles, c'est un camp qui est organisé par l'Église, surtout vous me préparez un prospectus, je vais m'inscrire assez rapidement, mais ce Jésus qui ne pouvait plus prier, puisqu'il était mort, il ne pouvait même plus le prier, ils l'ont accompagné jusque dans la mort. Et ça, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'absolument extraordinaire. Il fallait peut-être que ce soit des Juifs, d'ailleurs, qui fassent cela, pas parce que des Juifs, veut dire des membres du Sanhédrin, ou comme Nicodème, un pharisien, parce qu'ils pouvaient encore prier le Père, peut-être. Peut-être qu'ils ont trouvé leur force encore ici, en priant pas Jésus, il est mort, mais qu'ils ont trouvé la force de prier le Père Céleste, qui est reconnu donc par tous les bons juifs de l'époque. Ils ont eu un cheminement intérieur, ces deux hommes. Quel chemin pour Nicodème. Nicodème, que Jésus a rencontré quelques années avant, hein, il a eu tout un chemin intérieur, il a dû méditer ce que Jésus avait dit, Nicodème. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans son cœur, comment il a évolué, mais on voit qu'il a évolué. On voit que Joseph d'Arimathée, qui était un homme peureux, a évolué aussi dans son cœur. Ces deux hommes qui ont évolué, qui ont eu un cheminement intérieur, c'était deux hommes qui étaient deux hommes, comme je les imagine, hein, un cheminement, vraiment un cheminement à l'intérieur d'eux-mêmes, pour pouvoir suivre Jésus comme ça, comme ils l'ont fait jusqu'au bout. Les autres disciples, quelqu'un comme Pierre par exemple, c'est quelqu'un qui était tout entier vers l'extérieur, soit pour affirmer qu'il était disciple de Jésus, soit au contraire pour le renier. Ces deux-là, c'était plutôt des gens qui avaient un autre tempérament, comme je les imagine, hein, des hommes qui vivaient quelque chose au fond d'eux-mêmes, quelque chose qui les a travaillés, ce qui fait qu'à un moment donné, ils ont eu cette persévérance à bien faire dont nous parle Romains 2,7, simplement faire ce qui est juste, que ce soit agréable ou ici franchement désagréable, facile ou difficile, ici franchement difficile, hein, prendre le corps de Jésus et puis l'amener au sépulcre. Ces deux hommes ont eu le courage de faire ce qui est juste. Et ça, je crois que parfois, c'est quelque chose dont nous avons besoin de comprendre. Le courage de faire simplement ce qui est juste. Parce qu'on a, parce que nous avons envie. Bon, des fois, on fait ce qu'on a envie aussi, hein, je veux dire, il n'y a pas de souci. Mais pas toujours. Parfois, faire ce qui est juste, c'est faire, faire quelque chose qui est difficile, qui n'est pas glorieux, et puis qui rentre quasiment dans l'anonymat. Et faire ce qui est juste, ces deux hommes ont eu le courage au bon moment de faire ce qui est juste parce qu'ils ont eu ce cheminement intérieur d'accompagner Jésus jusque dans la mort. Je me dis que Joseph d'Arimathée, c'est peut-être le premier qui a compris en lui donnant son sépulcre que Jésus était mort à sa place. Ce sépulcre qui était prévu pour Joseph d'Arimathée, il l'a donné à Jésus. Est-ce qu'il avait compris de façon un petit peu intuitive, encore un peu confuse, mais quand même, est-ce qu'il avait déjà saisi cette chose que, en mettant Jésus dans son tombeau, dans son propre tombeau, Joseph d'Arimathée avait compris que c'était exactement ce que Jésus avait fait pour lui. Il a pris la place de Joseph dans la mort pour que Joseph, et puis d'autres bien sûr, puissent vivre. Côtoyer la mort. Ils ont côtoyé la mort, ils ont côtoyé le Jésus mort. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce qu'il est important que nous comprenions pour notre vie de tous les jours, pour notre vie chrétienne, à travers l'attitude de ces deux hommes qui ont côtoyé la mort de Jésus? Mais je crois que nous aussi, nous avons à côtoyer la mort. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, côtoyer la mort? Ce n'est pas côtoyer le Jésus mort, bien entendu, ce n'est pas quelque chose de, qui est littéral, comme l'ont vécu Joseph et puis Joseph d'Arimathée et puis Nicodème. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour nous, côtoyer la mort? Oui, mourir à soi-même. Hein, c'est un thème biblique qui est très très courant. Nous avons à renoncer à nous-mêmes. Il y a des moments de nos vies, qui ne sont pas glorieux, où on a des difficultés, où c'est difficile, où nos difficultés, ben, elles sont anonymes. Hein, ce n'est pas des choses dont tout le monde, qu'on confie à tout le monde. On a des difficultés sérieuses, on a des difficultés qui nous font mal, on a des périodes difficiles. Et pourtant, dans ces périodes-là, il est essentiel que malgré tout, nous nous attachions à autant que possible faire ce qui est juste. Pas dans la gloire, pas. La gloire, les miracles, comprenez-moi bien, hein. Je suis pour que qu'on ait des choses glorieuses dans l'Église, pour qu'il y ait des réveils, pour qu'il y ait des gens qui soient guéris. Tout à l'heure, on fera l'onction d'huile. Et moi, si je propose l'onction d'huile, ce n'est pas pour que les malades aillent se recoucher. C'est pour que les malades soient guéris, évidemment. Donc, je ne suis pas contre. Hein. Comprenons-nous bien. Ne me faites pas dire ce que je ne veux pas dire, que ce soit bien clair. Mais il y a aussi des moments, quand même, et ça, il faut le savoir, où simplement, ce qui nous est demandé, c'est de faire, jour après jour, au mieux que nous le pouvons, faire ce qui est juste, comme ont eu le courage de le faire Joseph d'Arimathée et puis Nicodème. Alors faire ce qui est juste dans quoi par exemple? Oh, ça peut être dans des choses illégitimes. Alors, vous savez, la Bible décrit le fruit de la chair, ça peut être le mensonge, ça peut être la médisance, ça peut être la jalousie, et je ne les ai pas en tête, hein. Mais tous les péchés qui correspondent au fruit de la chair, qu'est-ce que ça veut dire mourir à soi-même à ce moment-là? Ça veut dire demander pardon et puis renoncer à ces choses. Ça, c'est relativement simple. Enfin, relativement simple à comprendre. À faire, ça peut prendre du temps. Bon, on est tous pareils, hein, on est tous du même sang et de la même chair. Mais ça peut être aussi des choses légitimes. Je crois que le Seigneur, parfois, nous demande de renoncer à nous-mêmes dans le sens que nous lui remettions des façons de penser, des conceptions, des façons de faire, des idées, des projets qui ne sont pas péchés dans le sens simplement moral, mais des choses qui nous demande de lui remettre simplement pour que nous reconnaissions que ce sont des choses qui lui appartiennent. Un projet, par exemple. Un projet peut être tout à fait un projet chrétien, un projet d'évangélisation, un bon projet. Hein. C'est quelque chose qui doit passer, tout doit, je pense, doit passer quelque part au moins pendant un certain temps par la mort. C'est-à-dire, je renonce à mon projet. Seigneur, moi, ça, voilà ce que j'avais prévu, mais ça ne m'appartient pas. On doit autoriser Dieu, mourir à soi-même, pour moi, ça veut dire aussi autoriser Dieu à faire autre chose que ce que j'avais prévu, à voir les choses autrement que je les avais vues, à concevoir les choses autrement que je les avais conçues. Et ça, ça me semble important, c'est un chemin de mort, parce que c'est pas... Ça veut dire reconnaître la seigneurie de Dieu dans nos vies. Une fois, ben, il va vous redonner votre projet. Puis il va vous le redonner, ça va être beaucoup mieux, ça va être beaucoup plus glorieux. Puis une autre fois, ben, le Seigneur va changer ce qu'on avait prévu. Le Seigneur va changer nos conceptions. Heureusement qu'il le fait d'ailleurs. Donc il y a des choses illégitimes, mais il y a aussi des choses légitimes qui, comme ça, sont appelées à mourir. Alors je ne sais pas si vous avez un exemple de choses comme ça. Quelqu'un peut-être a un exemple de choses qu'il a dû remettre à Dieu comme ça. Josiane. Contre, par rapport à quelqu'un qui a commis une injustice envers toi, c'est ça?
Oui, par rapport à deux personnes.
D'accord, d'accord.
Des choses importantes.
Oui, oui, non, sans détail, mais pour qu'on comprenne ce que tu veux dire, simplement.
C'est des choses importantes qui m'ont plombé la vie et qui me la plombent encore depuis des dizaines d'années. Alors je demande au Seigneur que, voilà, j'en avais un peu marre, je voudrais que ça soit reconnu publiquement, etc. Et puis le Seigneur me dit, mais si tu lâchais, si tu abandonnais de me demander de te faire justice, si tu y renonçais, si tu me laissais, moi, décider quand et comment ça sera fait. Et donc, du coup, il y a comme une libération, comme une grande paix qui est venue. Et je me suis dit, ben, Seigneur, voilà, même si la justice ne m'est pas rendue sur la terre, je te laisse, c'est toi qui es juste, je t'abandonne ça, je te laisse ça. Et donc, il a fallu que je fasse mourir en moi ce désir d'être reconnu. On ne m'accable plus pour certaines choses.
Merci.
Tant pis, je te le remets. Voilà.
Merci. Donc ça, c'est une mort à soi-même.
Oui.
Hein, dans le bon sens du terme.
J'ai renoncé à demander justice.
Oui. Ça, j'expérimente dans les choses du quotidien.
Oui.
Dans les choses qui ne sont pas forcément spirituelles. De savoir...
Bien sûr.
Tu vas acheter une voiture. C'est basique, mais pour moi, c'est important. Et donc, tu vas acheter une maison, tu as un projet, et c'est bon de, comment dire, alors, un projet, ça s'enveloppe de tout un enthousiasme,
oui.
D'une réflexion, et tu as des critères, tu sais que tu veux ci, tu veux ci, tu veux ci, tu veux ça, pour que ça soit comme ci et comme ça. Et donc ça, je trouve que c'est super que de pouvoir s'approcher de Dieu et de dire, Seigneur, voilà, je voudrais que tu participes à mon projet. J'ai besoin d'acheter une voiture, ça représente quand même une certaine somme d'argent, c'est pas négligeable, il ne faut pas se tromper. Et donc, Seigneur, viens dans je t'accueille dans ce projet. Et puis, tout le monde voilà, connaît la suite. Et Seigneur, tac, il conduit les choses et c'est plus nous qu'on voit. Je trouve ça vraiment.
C'est un peu ce que dit Josiane, lâcher, confier, lâcher.
Bah ouais.
Dans cette démarche-là, confier, lâcher. Il y a une forme de mort à soi-même. Merci. Et ce qui est... Pardon.
Alors, je pose la question à... Est-ce que cet acte que tu as fait une fois, est-ce qu'il il est fait définitivement ou est-ce qu'il arrive encore...
Non, c'est fait définitivement. C'est fermé, je n'en souffre plus, je ne me sens plus plombé du tout par ces histoires.
D'accord.
Et ça, c'est comme si c'était parti, ça ne m'appartient plus. C'est vraiment sorti de moi.
Merci.
J'en souffre plus.
Merci pour ces bons exemples. Il y en aurait d'autres, hein, mais voilà, on ne pourra pas prendre le temps de tous les dire. Ce que je voudrais faire remarquer, pour presque terminer ici, c'est que s'il n'y avait pas eu un Joseph d'Arimathée et puis un Nicodème pour accompagner Jésus dans la mort, pour avoir ce renoncement, il n'y aurait pas eu la résurrection non plus. Enfin, encore que, est-ce que Jésus aurait pu ressusciter, mais ça ne serait pas fait de cette façon-là, pas avec l'histoire de la pierre, les anges qui rougent la pierre, vous connaissez l'histoire hein, qui suit bien sûr, ça ne se serait pas passé comme ça. Donc ces deux hommes, ils ont eu une action qui était discrète, qui était difficile, mais en même temps qui était essentielle. Il fallait que ces deux personnages soient là à faire ce qu'ils ont fait et qu'ils l'aient fait au bon moment. Donc c'est pas parce que faire ce qui est juste quand les choses sont difficiles, ça conduit tôt ou tard, c'est comme dans un tunnel, hein. On rentre dans le train ou la voiture, vous rentrez dans le tunnel, s'il fait sombre, il y a une sortie. Et quand on sort de l'autre côté du tunnel, à ce moment-là, c'est quelque chose qui nous attend, qui est de l'ordre de la résurrection. Bon, il y a quelqu'un un jour qui m'a donné cette image, c'est que la mort de Jésus et la résurrection, mais de façon beaucoup plus générale, la mort et la résurrection sont comme les deux faces d'une même pièce. Vous ne pouvez pas couper la pièce, et ça, enfin, vous pouvez essayer si vous voulez avec une hache, mais vous allez vous faire très mal, de couper la pièce par la tranche. Ce n'est pas possible. Mais c'est un petit peu pareil. On ne peut pas séparer la mort et la résurrection. Josiane, dans ce que tu as vécu, si tu n'étais pas morte, on se comprend bien, hein, à toi-même, s'il n'y avait pas eu ce renoncement, eh ben, la libération, tu ne l'aurais pas eue. Même chose dans l'exemple que tu as donné. Donc c'est essentiel, je crois vraiment, d'avoir cette attitude de considérer ces deux exemples de Joseph d'Arimathée et puis de Nicodème, de ces deux personnages qui ont osé faire ce qui était juste au bon moment, d'accompagner Jésus, non pas dans la gloire, mais dans quelque chose qui est de l'ordre du renoncement, de la mort, pour pouvoir ensuite, l'objectif, hein, il n'est pas de mourir définitivement, l'objectif, il est même Jésus, quand il allait partir, il a levé les yeux au ciel, et il a dit, « Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi avant la fin du monde. » Jésus l'avait sans tête, il savait qu'il allait passer par la croix, il savait qu'il allait mourir, il savait que ce serait difficile, mais il savait qu'après, il repartait au ciel et puis que c'était la gloire. On n'est pas fou, on n'est pas masochiste, le chrétien, on ne va pas se faire mal pour se faire mal, mais on va accepter certains renoncements parce qu'on sait que dans ces renoncements, Dieu va nous faire du bien. Au bout du compte, on est bien convaincu que Dieu est bon. Mais parfois, ça demande de la patience, mais parfois, ça demande de faire ce qui est juste pendant un temps, alors que on ne voit pas grand-chose, forcément. Tout à l'heure, Agnès, tu as dit, si j'ai bien noté, redresser la tête, moi je dirais, mais oui, redressons la tête. Le chrétien n'est pas là pour avoir les pieds à regarder ses chaussures tout le temps, mais on est là pour redresser la tête parce qu'on espère en Dieu. Et l'attitude est parfaitement juste. Mais avec la tête redressée, il n'empêche que, tout en ayant la tête redressée, on est amené parfois à marcher sur des chemins qui sont difficiles. On est bien d'accord. Voilà, je vais passer une petite vidéo maintenant pour illustrer un petit peu tout cela. Jackie vous l'a envoyé, si vous l'avez reçu cette semaine, moi je l'ai reçu. Et puis je me suis dit, tiens, ça accompagnerait bien la prédication de dimanche. Donc je me permets de vous projeter cette petite vidéo, je ne sais pas où Jackie l'a trouvé, j'ai trouvé que c'était une bonne illustration. Tu l'as ? Bon, vas-y, c'est parti. me suis dit que c'était une bonne illustration. Merci pour vos exemples. Et moi, je vous encourage à voir dans la Bible l'histoire de ces gens anonymes. Il y en a un autre, vous savez, celui qui a aidé Paul. Il n'en est pas Ananias, il est parlé de lui. C'est lui qui est venu aider Paul sur la route de Damas. Quelqu'un qui a fait pas grand-chose, qui a travaillé quelques journées pour le Seigneur, en tout cas quelques journées qui sont décrites dans la parole, mais qui sont des éléments déterminants. Je crois que qui que nous soyons, hein, grand ministère, petit ministère, si on fait ce qui est juste, un chrétien qui persévère à faire ce qui est juste, qui persévère à bien faire, ça c'est dans Romains, je vais encore terminer par ça, dans Romains 2, verset 7, Romains 2, verset 7, il est parlé de la persévérance à bien faire. Un chrétien qui persévère à bien faire, c'est quelqu'un qui est extrêmement dangereux pour l'ennemi. Qui persévère à bien faire, quelles que soient les circonstances, favorables, défavorables, faciles ou difficiles. Donc que le Seigneur nous aide à être dans cette persévérance, puis à être de ceux qui font pas des choses forcément glorieuses dont il sera parlé à la télévision, à la radio ou dans les bouquins chrétiens, mais à faire simplement, comme tu l'as dit, jour après jour, à faire ce qui est juste, à examiner les choses. Confier au Seigneur les projets, confier au Seigneur les journées, parce qu'on a des choses qui sont programmées, mais souvent le Seigneur nous attend pas forcément avec les choses que nous avions programmées. Voilà, je vais lire Matthieu 26, sans autre introduction pour la Sainte Cène que ce qui vient d'être dit, si ce n'est que la mort précède toujours la résurrection. Matthieu 26, pendant qu'ils mangeaient, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis. » Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Seigneur, je te remercie pour cette sainte cène. Et je vais demander à Stéphane et à Florence s'ils veulent bien venir prier pour le pain et puis le vin.